Voilà, donc nous arrivons au terme, on pourrait encore dire bien des choses, hein, c'est sûr, de nos conférences sur notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ça a pris 3 ans quand même, je crois, donc je pense qu'on a vu pas mal de choses, mais enfin, il est sûr qu'on pourrait en parler toute l'année, ça, et toute la vie. Il y aura toujours bien des choses encore à dire sur notre Seigneur, hein. 3 choses sur lesquelles nous arrêterons un petit peu. Tout d'abord, bien, c'est le fait de cet événement de l'Ascension, le retour à notre Seigneur donc vers son Père, dans la gloire de son Père. Et puis ensuite, il y a ces 2 actions qu'il exerce, ou qu'il exercera dans sa gloire. C'est d'abord le gouvernement de l'univers, simplement le Christ roi. Et puis enfin, ce qui achèvera ce gouvernement de l'univers, ce sera le jugement. C'est ce que nous disons dans notre credo. « Est assis à la droite de son Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de son Père, et un jour, il en reviendra pour juger les vivants et les morts. » Ce sont des dogmes de foi. Nous ne pouvons avoir aucun doute, d'abord sur la réalité de l'ascension de Jésus-Christ, réalité physique, si l'on peut dire. Hein. C'est pas du tout une, comme le dit Pierre Vivante ou je ne sais qui, tous ces trucs-là, hein. C'est pas du tout une sorte d'image, d'illusion. Ils auraient eu l'impression de le voir s'élever, pas du tout. Il s'est bel et bien élevé avec son corps et son âme. Il s'est élevé jusqu'au moment où il a disparu à leurs yeux, bon, enveloppé dans une nuée. Il est assis à la droite de son Père. Bon, nous verrons ce que cela veut dire, bien sûr, hein, n'imaginons pas cela d'une façon physique. Hein. Ne croyez pas que Jésus-Christ soit assis sur un nuage ou je ne sais où, là, certainement pas. Hein. Ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut considérer les choses. Et puis, ensuite, eh bien, il viendra juger tous les hommes. C'est ce fait donc du jugement. D'abord, saint Thomas d'Aquin s'arrête, vous voyez, toujours, il divise un petit peu ses considérations. Et il observe 3 aspects dans l'ascension. Tout d'abord, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus beau pour nous, c'est la sublimité de l'ascension. Oui. Sur cet événement sublime, extraordinaire, inimaginable. Et personne, je dirais, n'aurait pu imaginer une chose pareille. On n'a jamais vu un événement comme cela dans l'histoire des hommes. Oui. On a vu des hommes être élevés dans les cieux, bon, par exemple dans l'Ancien Testament. Il y a deux êtres humains comme ça qui ont été enlevés. Enoch et Élie. Bon, Élie, c'est assez connu, Élie sur son char de feu, bon, ça. Et puis, bien avant lui, il y avait un patriarche qui s'appelait Enoch, et qui a été enlevé lui aussi, du milieu des vivants. Et le cas de Élie et Enoch est tout à fait différent de celui de notre Seigneur. Hein. Notre Seigneur qui est mort, qui est ressuscité, oui, et qui est donc dans sa gloire, ressuscité dans la gloire, et qui est donc enlevé, et qui retourne dans la gloire de son Père, la gloire qu'il avait avant la constitution du monde, comme il dit. Alors que Élie et Enoch, c'est tout à fait différent. Élie et Enoch ne sont pas morts. Attention, hein. Élie et Enoch, Élie sur son char de feu et Enoch enlevé, on ne sait pas trop comment, ne sont pas passés par la mort, donc ils ne sont pas ressuscités. Donc ils ne sont pas dans la gloire. Alors où sont-ils? Si vous rencontrez 2 vieillards barbus comme ça, mais très très vieux, beaucoup plus vieux que tous ceux que nous pouvons voir là, ben, ça sera peut-être eux. Et attention, hein, un jour nous les reverrons. Lisez l'Apocalypse, les 2 témoins hein, qui reviendront à la fin des temps et qui seront martyrisés, qui seront mis à mort, etc. Mais ce sera eux sans doute, Élie et Enoch. Dieu les a retirés, Dieu les garde pour cette intervention de la fin des temps. Ouais. Alors si un jour vous voyez arriver de patriarches très solennels, très... Bon, préparez-vous peut-être, hein. Bon, nous verrons. C'est certain, cela. Ils ne peuvent pas être au ciel puisqu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas ressuscités. Donc, ils sont quelque part sur la terre. Où Dieu leur a-t-il aménagé comme ça un lieu d'attente, de repos? Que font-ils? Mais ils attendent. Ils contemplent peut-être. Sans doute ont-ils des grâces particulières, je ne sais ça. Mais le bon Dieu les a réservés pour la fin des temps. Bon, le cas de notre Seigneur est donc tout à fait différent. Lui, c'est lui-même qui s'est enlevé. Hein. C'est lui-même qui est Dieu. Et qui s'est élevé par sa propre puissance, qui s'est élevé au-dessus de tous les cieux, nous dit saint Thomas d'Aquin. Donc ce n'est pas Dieu qui l'a enlevé, si vous voulez, mais c'est lui-même, puisqu'il est Dieu, qui s'est élevé par sa propre puissance. Et voilà, les apôtres l'ont vu disparaître, monter et ensuite disparaître. Alors saint Thomas d'Aquin d'abord expose les raisons de la sublimité de cette ascension. On admet le fait ou on l'admet pas, c'est tout. On ne peut pas vous donner d'explication. C'est la toute-puissance de Dieu, ouais, dont Jésus-Christ était le dépositaire, bien sûr, puisqu'il est Dieu, voilà, qui a agi et qui l'a qu'il a élevé. Et puis au bout d'un moment, quand il a voulu, il a fait disparaître son corps aux yeux des apôtres, voyez, bon, qui ne l'ont plus vu. Et puis les anges ont dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là, hein? N'attendez pas, allez, allez à Jérusalem. Hein? Et donc, sublimité de cette ascension, il est monté au-dessus de tous les cieux matériels. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin distingue. Et ce n'est pas, bon, même si on peut discuter un peu, je dirais là, la cosmogonie, la science, l'état de la science à l'époque de saint Thomas d'Aquin, mais ce qu'il dit là quand même est tout à fait juste. Hein. Il est monté au-dessus de tous les cieux matériels. Et nous verrons que c'est peut-être important, hein, pour ne pas nous imaginer justement, pas essayer d'imaginer où est le corps de Jésus. Vous ne pouvez pas l'imaginer parce que précisément, par son ascension, il a échappé à l'ordre matériel. Il est monté au-dessus de tous les cieux matériels. Il n'est pas dans le ciel l'azur tel que nous le voyons au-dessus des nuages, non. Il est sorti, si vous voulez, du monde matériel. Le lieu où est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a bien, bel et bien son corps, comme Notre-Dame également. Et en second lieu, le Christ est monté au-dessus de tous les cieux spirituels. Mais en plus, au-dessus de tous les cieux spirituels, c'est-à-dire au-dessus de toutes les natures spirituelles. Et quelles sont ces natures spirituelles? Eh bien, ce sont par exemple les élus, les saints et les anges. Mais attention, quand on dit au-dessus, ce n'est pas une question de situation locale. Il est au-dessus, plus noble, plus glorieux, plus puissant, vous voyez. C'est-à-dire au-dessus de toutes les natures spirituelles. Vous voyez ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens? Le Père a fait siéger Jésus dans les cieux à sa droite, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, domination. Vous voyez, ça, ce sont les anges, les cœurs des anges. Et au-dessus de tout nom, quel qu'il soit, non seulement en ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Oui, il est vraiment Jésus-Christ dans son corps, là, et vraiment au-dessus de tout, toute créature, corporelle ou bien spirituelle. Un Dieu a tout mis sous ses pieds. Et en troisième lieu, donc, il est encore plus fort, si l'on peut dire, le Christ est monté donc non seulement au-dessus de tous les cieux matériels, non seulement au-dessus de tous les cieux spirituels, mais encore, il est monté jusqu'au trône de Dieu le Père. Il est assis, et c'est là, c'est pourquoi, donc, il est assis à la droite du Père. Oui, cette question du lieu, je sais bien que c'est une question un petit peu difficile, hein, parce que nous avons l'habitude, justement, ben, d'observer les choses, vous voyez. Et nous situons les êtres par rapport, justement, à un autre corps matériel, ou à une autre matière. Bon, je suis assis sur une chaise, il est dans la campagne, vous voyez, on situe toujours un être selon la position qu'il a par son corps, vous voyez, avec les autres corps. Il est à droite, il est à gauche, etc. C'est toujours une situation qui est relative par rapport à d'autres corps matériels, voyez. Alors que notre Seigneur, eh bien, précisément, est monté au-dessus de tous les cieux matériels. Il a échappé, il est sorti de l'ordre créé, de l'ordre de la création. On ne peut pas les situer dans cet ordre matériel que nous observons. Voici ce que dit un commentateur ici au sujet des articles que saint Thomas consacre à cette question. On remarquera que saint Thomas demeure très discret sur le lieu du corps du Christ. Tant dans la conclusion que dans les solutions aux difficultés soulevées, il évite les questions oiseuses. Donc saint Thomas se contente de dire que le corps du Christ est au-dessus de tous les cieux sans entrer dans les détails dont la précision nous échappe faute de révélation, parce que Dieu ne nous l'a pas dit. Voici par exemple une remarque de Cachetan, célèbre commentateur de saint Thomas d'Aquin. Laissons ces problèmes surnaturels du siècle futur à la science de ce siècle futur. Voilà, mais lorsque nous serons dans l'éternité, nous pourrons à ce moment nous poser la question. Et tant que nous sommes ici-bas, nous ne pouvons pas avoir la réponse, donc mieux vaut ne pas nous poser la question. Et que dit le catéchisme à ce sujet? En tant que Dieu, il est partout, par sa présence, sa puissance, son essence, etc. Nous avons appris ça. Et Dieu, on ne peut pas le situer. Où est-il, Dieu? Il est partout, donc il est nulle part. On ne peut situer un esprit que s'il est lié à un corps. Voyez, moi, je sais que mon âme, eh bien, mon âme, elle est là. Mais parce qu'elle est enfermée, si on peut dire, dans mon corps. Et le jour où mon âme quittera mon corps, où sera-t-elle? Je ne pourrai plus la situer dans un endroit bien déterminé, dans un lieu bien déterminé. Elle sera en Dieu, j'espère, du moins. Oui. Mais Dieu est esprit, donc Dieu n'est pas limité par un corps, par des dimensions, etc. Donc Dieu est partout, effectivement. Et étant partout, on ne peut pas dire qu'il est à tel ou tel endroit. On peut dire qu'il est partout, c'est tout. Donc en tant que Dieu, Jésus-Christ est partout, bien sûr. Et en tant qu'homme, il est au ciel et au Saint-Sacrement de l'autel. Avec son humanité, donc, où trouvons-nous Jésus-Christ ? Au Saint-Sacrement de l'autel, bien sûr, dans l'Eucharistie, là nous le trouvons avec son corps, son âme. Et puis ensuite, nous le trouvons au ciel. Mais le ciel, qu'est-ce que c'est le ciel ? Le ciel, c'est Dieu. Et oui, c'est ça le ciel. Vous voyez, c'est... Après la résurrection générale, le jugement général, après tout, je dirais, la rénovation de la terre, ce sera tout à fait différent. Mais pour l'instant, le ciel, qu'est-ce que c'est ? Le ciel, c'est Dieu. Alors, vous voyez, on se retrouve dans le même problème. Vous voyez, hors Dieu n'est nulle part. Enfin, il est partout, donc il est nulle part, etc. Et les âmes bienheureuses, actuellement, quand nous disons qu'elles sont au ciel, les saints qui sont au ciel, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire simplement qu'elles sont en Dieu. Elles sont dans la gloire de Dieu. Et où est la gloire de Dieu ? En Dieu. On ne peut rien dire de plus que cela. Et où est Dieu ? Dans sa gloire. C'est saint Thomas, ce n'est pas saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, qui a ce petit mot très très simple, hein, et, mais qui résume tout le mystère. Où est Dieu ? Ou plutôt, il se pose la question, si quelqu'un te demande, où était Dieu avant la création ? Et parce qu'on est toujours tenté un petit peu d'imaginer Dieu selon notre façon à nous. Oui. Alors, maintenant qu'il y a la création, on veut toujours enfermer le bon Dieu dans sa création. Mais non, n'enfermez pas le bon Dieu dans la création. Le bon Dieu, il échappe à l'ordre créé. Le bon Dieu domine sa création, il n'est pas dans la création. Et le fait de la création n'a rien changé pour Dieu. Il est toujours le même avant et après la création. Le bon Dieu n'a pas changé d'endroit, si on peut dire, du fait qu'il est créé. Alors, où était Dieu avant la création ? En lui-même. Voilà, avec ça, ben, débrouillez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut rien vous dire de plus. Hein. Et avant la création, et même après la création, le bon Dieu n'est pas dans un lieu particulier, n'est pas dans un lieu déterminé. Il est en lui-même. Pourquoi ? Mais parce qu'il est esprit. Parce qu'il est esprit, oui. Bon, alors c'est bien que ça nous fait casser un petit peu la tête, tout ça. On essaie de se tordre les méninges un peu dans tous les sens, mais voilà, ne vous tordez pas les méninges, vous ne trouverez jamais la réponse. Alors, ne vous posez pas la question, croyez simplement, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce qu'on nous demande à nous tous, hein. C'est un acte de foi. Et le ciel, c'est Dieu, le ciel, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas un lieu bien déterminé, bien situé comme ça dans l'univers, c'est pas tel coin du ciel, là, de où, non. Et voici là ce que dit un auteur sur cette question de l'endroit, si on peut dire, où l'on peut essayer de situer notre Seigneur. Eh bien, il vous dit la même chose que moi, mieux sans doute. Nous sommes sans doute en face d'un mystère. Eh oui, le mystère de la vie dans l'au-delà, mystère que nous ne pouvons pénétrer et encore combien imparfaitement que grâce à l'analogie, hein, ce qu'on appelle l'analogie. Et les localisations de la vie future ne sauraient être conçues d'une façon univoque. On ne peut pas concevoir ce problème des localisations dans l'éternité, dans le ciel, comme nous les concevons ici-bas, dans l'ordre créé. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Et c'est la conclusion, ce qu'il dit ici. À part notre Seigneur et sa Sainte Mère, les habitants de l'au-delà sont de simples esprits. Les saints actuellement du ciel n'ont que leur âme, sont de simples esprits. Et donc jusqu'à la résurrection générale, des âmes séparées de leur corps et donc assimilables aux esprits purs, donc non localisables dans un endroit bien particulier. Quant au second point, bon, et on sort pour notre Seigneur et Notre-Dame, personne, oui, c'est ça, la question. Personne n'admet que le monde matériel créé soit infini. Oui, le monde matériel que nous observons, la Terre, les astres, les planètes, etc., ce monde matériel n'est pas un monde infini. Il a des limites, hein, ce monde matériel. Hein. L'univers a des limites. Bon, c'est immense, bien sûr, et aller chercher des étoiles à je ne sais pas combien d'années-lumière, etc. Bon, ça c'est vrai, mais un jour ou l'autre, ben, on arrivera au bout. Hein. Le monde créé, l'univers est une création et donc est fini et limité. Ouais. Il n'y a que Dieu qui soit infini, qui soit illimité. Dieu est immense. Dieu n'a pas de mesure parce que Dieu n'a pas de limite. Ouais. Dieu est infini, mais il n'y a que Dieu qui soit infini. Et le monde créé est un monde qui est fini. L'univers, bon, je ne sais pas trop quelle forme ni quelle dimension il a, ça je n'en sais rien du tout, mais il est fini, il est limité. Ouais. Voilà, eh bien, Donc ce monde matériel n'est pas infini. Et on peut donc en conséquence admettre, en dehors des limites de ce monde matériel créé, l'existence de corps humains échappant totalement aux lois de la localisation. Oui. Donc le corps de Jésus-Christ, le corps de Notre-Dame, eh bien, sont très certainement en dehors justement de ce monde matériel. Oui. Alors c'est cela qu'on appelle le ciel. Oui. Il a quitté le monde, l'univers créé, les limites du monde créé. Et il est assis à la droite de son Père, à la droite du Père. Oui. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur la question du lieu, de l'endroit où se trouve Jésus-Christ. Et personne, je crois, ne pourra vous en dire beaucoup plus que cela. Ouais. Et il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Alors attention, être assis à la droite du Père, bien sûr, là aussi, ne considérez pas la chose de façon physique et matérielle. Jésus-Christ n'est pas assis véritablement, en position assise à la droite de son Père, puisque son Père est un esprit. Or, un esprit n'a ni droite, ni gauche, ni dessus, ni dessous. Etc. Donc, ce n'est pas une question de lieu, toujours pareil. Ce n'est pas une question de localisation. C'est une métaphore, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est une métaphore pour manifester justement la gloire, la grandeur, la puissance, vous voyez, de l'honneur auquel a été élevé notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de la droite de Dieu, cette expression ne doit pas s'entendre d'une manière corporelle, mais dans un sens métaphorique. En effet, si en disant de Jésus, il est assis à la droite de Dieu, nous pensons à sa divinité, voyez, si en tant que Dieu, donc nous disons qu'il est assis à la droite du Père, cela signifie que Jésus est égal en tout à son Père. Égalité, voyez, égalité avec le Père. Mais si nous pensons à sa nature humaine, et c'est de cela que nous parlons surtout, cela veut dire alors que le Christ jouit des dons les plus excellents. Il est vraiment situé à l'endroit le plus excellent de la création. Il est au-dessus de tout, de tout, de tout. Ouais. Ouais, cette droite du Père signifie deux choses, en fait. Ouais. Quand on dit qu'il est assis à la droite du Père, nous disons d'abord qu'il est assis. Le fait de dire qu'il est assis, bon, ça ne veut pas dire donc une position corporelle, mais ça veut dire simplement le repos de la béatitude. Ouais. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied. Voilà, s'assied, c'est le repos, la position assise, donc, c'est la position du repos. Donc, repos dans la béatitude, voilà, il est assis, c'est bien, il a pris sa place, il a pris son Dieu, si vous voulez, sa place dans la béatitude, et là, il jouit de ce repos. Et puis ensuite, cette position assise également, et la droite du Père, manifeste également, vous voyez, la prérogative, une prérogative qui est la prérogative royale et judiciaire. Être assis, être assis, c'est la position du roi, et c'est la position du juge. Bon, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas très bien comment ça se passe dans les tribunaux, etc., mais le juge, lorsqu'il juge, lorsqu'on comparaît devant le juge, eh bien, l'accusé, il est debout, et le juge est assis. Ou le roi, également. Le roi, eh bien, il est toujours assis. On faisait ces... Je ne sais pas très bien comment ça se passe maintenant, mais autrefois, en tout cas, c'était clair. Celui qui était assis, c'est celui qui avait l'autorité, c'est celui qui a l'autorité. Et celui qui est inférieur, qui est subordonné, eh bien, il se présente debout, devant le roi, devant le juge. Voyez. Et donc, c'est cela que signifie, que manifeste, voyez, cette expression, être assis à la droite du Père. Voyez. D'abord le repos, et puis ensuite l'autorité. Pouvoir royal et pouvoir judiciaire. Alors cette simple expression déjà est une manifestation, une expression en tout cas, justement de ce double pouvoir qui est celui de notre Seigneur dans son éternité, à savoir d'être le roi et d'être le juge. Ce sont ces deux prérogatives, ces deux manifestations de l'autorité suprême que Jésus-Christ exerce aujourd'hui dans son éternité. Alors le pouvoir temporel, ça je dirais, pouvoir temporel, pouvoir royal, mais c'est tout l'objet, c'est tout le discours de l'encyclique Quas Primas, vous connaissez j'espère, c'est toute la question du Christ roi, tout simplement, et cela relève de la foi. Lorsque Pie XI a, a exposé, disons, la doctrine de la royauté du Christ, il n'a rien inventé. Ce n'est pas un nouveau dogme qu'il a proposé à la foi des chrétiens, mais c'est quelque chose qui a toujours été cru. Et c'est cette autorité, ce pouvoir, cette royauté que Jésus-Christ exerce dans son éternité en tant qu'homme sur tout l'ordre des choses créées, les réalités, les choses temporelles et les choses spirituelles. Il est roi. Il est roi, c'est lui le roi, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est le Rédempteur, etc. Bon, mais il est le roi et cette royauté, il l'exerce effectivement de façon effective. C'est pas simplement une sorte de titre qu'on lui décerne comme ça pour l'honorer, non. C'est effectivement une autorité qu'il exerce. Alors qu'il exerce, eh bien, je dirais, selon le degré de notre soumission, bien sûr, à cette autorité, mais en tout cas, cette autorité, il l'exerce. Ne croyez pas. Malheureusement, aujourd'hui, je dirais, c'est une chose qui n'est plus du tout, ou quasiment plus admise, dans la doctrine, dans la prédication actuelle de l'Église officielle, disons, cette royauté actuelle. Actuellement, Jésus-Christ est le roi, il gouverne les hommes et toutes les créatures. Cela, on ne l'admet plus. Pensez donc que si vous admettez aujourd'hui que Jésus-Christ est le roi de tous les hommes, comment voulez-vous accorder cela avec la liberté religieuse, l'œcuménisme, etc. Ça joue pas, ça va pas. Ouais. Et tout se tient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait actuellement? Quelle est la doctrine? Parce qu'on ne veut pas rejeter quand même la doctrine du Christ roi. Mais alors on repousse cette royauté du Christ à la royauté eschatologique. Alors à la fin des temps, ouais, il reviendra. Alors il viendra prendre possession du royaume de la terre. Très bien, mais d'ici là, eh bien, les hommes se débrouillent entre eux. Bon, c'est un petit peu schématique, si vous voulez, mais en gros, c'est ça. Ouais. Jésus-Christ, pour eux, dans ce point, Jésus-Christ n'exerce pas actuellement cette royauté. Cette royauté, il la prendra lorsqu'il reviendra juger les vivants et les morts. Et alors là, d'accord, très bien. Mais d'ici là, bon, laissez les hommes cheminer chacun sur leur voie pour aller à Dieu. Bon. Et non, ça c'est... Et cette royauté recouvre l'encyclique Quas Primas, pour ça est très très claire et très très bien faite, recouvre tout l'ordre des réalités, même le pouvoir temporel. Alors là, sa misère, ça, quand on dit ça aujourd'hui, c'est la fin des temps, à savoir que Jésus-Christ a vraiment le pouvoir, l'autorité temporelle. Sur les choses temporelles, sur les sociétés, sur les cités, sur les lois civiles, etc., Jésus-Christ a autorité. Il doit régner dans les sociétés, il doit régner sur les pays, les familles, etc. Alors ça, misère, aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable, d'intolérable. Et même nous, parfois, on a du mal à le comprendre. Rendez à César ce qui est à César. Ça, c'est toujours la réponse qu'on nous fait dans ces cas-là. Et oui, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu est roi. Vous ne pourrez pas faire que Dieu, en tout cas, ne soit pas le maître de sa création. Oui ou non? Si c'est Dieu qui est notre créateur, est-ce qu'il a l'autorité sur tous les êtres qu'il a créés? Donc Dieu est roi de sa création. Et les sociétés sont des créations de Dieu. L'homme est une création de Dieu. Et l'homme en société est une création de Dieu. Donc Dieu a l'autorité sur les sociétés. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, égal à son Père, et bien également, bien sûr, a cette autorité sur les sociétés. Il a même cette autorité non seulement en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Bon, nous allons voir ça. Alors, bien sûr, cette autorité temporelle, comme elle n'est pas quand même la plus importante, bien qu'elle soit importante, ouais, Jésus-Christ n'a pas voulu l'exercer. Effectivement, nous voyons bien que pendant sa vie terrestre, il n'a pas voulu exercer cette autorité, ouais, cette royauté temporelle. Mais le fait de ne pas l'exercer ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il l'avait, il a cette autorité temporelle, mais il n'a pas voulu l'exercer. Il en confie l'exercice, effectivement, aux autorités publiques, aux rois, bon, tout ce que vous voudrez, très bien. Il les laisse user de cette autorité, mais en fait, elle lui appartient. Il pourrait très bien user de cette autorité, mais il ne veut pas, simplement, ouais, alors qu'il la possède. Parce que il préfère justement, et c'est le rôle de l'Église, qui est aussi l'Église, oui. L'Église aussi pourrait exercer l'autorité temporelle, mais l'Église ne le fait pas, puisque Jésus-Christ ne l'a pas fait, et elle se réserve l'autorité spirituelle. Bien sûr, c'est là le plus important, c'est là l'essentiel de l'autorité du Christ roi. et de l'autorité de l'Église, hein, c'est ce pouvoir spirituel. L'autorité temporelle n'étant qu'au service de l'autorité spirituelle. C'est normal, hein, c'est cette question de la subordination des sociétés à l'autorité de l'Église. Hein. Bon, les autorités politiques exercent l'autorité, mais elles doivent être soumises à l'autorité spirituelle de l'Église. Bon, l'Église ne veut pas exercer l'autorité temporelle, mais elle donne les lois, les principes spirituels, surnaturels, qui doivent régir les lois temporelles. Eh bien, c'est ce que Jésus-Christ fait actuellement. Et ce pouvoir spirituel, il l'exerce, hein, avec ses grandes prérogatives, vous voyez, si on peut dire les trois chefs principaux de ce pouvoir spirituel du Christ. D'abord, c'est en tant que rédempteur universel. Hein. Il nous a rachetés. Donc, il a conquis nos âmes, il a conquis toutes nos âmes, il les a rachetées par le sang de la croix. Et donc, il s'est rendu maître de nos âmes, il a reconquis, il a racheté au sens propre, hein, ses âmes. Donc, nos âmes lui appartiennent. Donc, il a autorité sur elles. En tant que souverain prêtre également. Souverain prêtre, Jésus-Christ est le souverain prêtre, il intercède pour nous, etc. Donc il joue le rôle de médiateur, etc. Et donc il a autorité sur nos âmes. Et puis ensuite, en tant que législateur de l'Église, hein, c'est lui, Jésus-Christ, qui est l'auteur de la loi de l'Église. Bon, non pas dans toutes les prescriptions de détail, sans doute, la loi purement ecclésiastique, mais c'est lui qui est l'auteur de la loi essentielle de l'Église, la loi de la grâce, la loi de la vie éternelle. Hein. Et ça, cette autorité de Jésus-Christ lui revient de plein droit. Vous voyez, par exemple, ce que dit ici le Concile de Trente. Hein. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ a été donné aux hommes comme rédempteur en qui il faut croire, mais non pas comme législateur à qui il faut obéir, anathémacite. Oui. Donc si vous admettez que Jésus-Christ soit votre rédempteur, donc en qui il faut croire, bien. Mais si vous n'admettez pas qu'il soit également le législateur à qui il faut obéir, eh bien vous êtes anathème. Embêtant ça. Oui. Législateur, donc... Et bien, il a le pouvoir de faire des lois, donc il a l'autorité. Et il y a ce lien, toujours entre l'autorité et la loi. C'est celui qui a l'autorité qui fait la loi, c'est normal, c'est celui qui est le roi, qui est le législateur également, dans une société bien organisée. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, vous voyez. Bon, c'est l'autorité qui fait la loi, ça c'est normal, hein. Elle gouverne pour le bien commun, pour nous conduire tous au bien, et comment nous gouverne-t-elle? Eh bien, en faisant des lois. Elle donne des ordres, elle des préceptes, elle fait des lois. Hein. Et donc Jésus-Christ n'est pas que notre rédempteur, il est bien sûr notre rédempteur, mais également notre législateur. Si nous ne l'admettons pas, eh bien nous ne sommes pas catholiques. Oui, eh oui, c'est clair ça. Ça appartient véritablement au contenu de la foi. Et puis l'encyclique Quas Primas, alors bon, on peut relire peut-être quelques petits passages de cette encyclique, qui est très belle, hein, et qui dit tout cela de façon encore plus belle, bien sûr. Il est de toute évidence que le nom et la puissance de roi, au sens propre du mot, doivent être attribués au Christ dans son humanité. Et c'est là, bien souvent, je crois que nous achoppons un peu. Bon, nous admettons que le Christ soit roi, mais bien souvent, lorsque nous pensons au Christ roi, nous pensons à Dieu roi. Bon, Dieu, il est roi, très bien, ça va bien, oui, c'est vrai. Mais le Christ roi en tant qu'homme. Et il nous gouverne avec son humanité, son corps humain, son âme humaine, son intelligence humaine, sa volonté humaine. C'est cela qui exerce sur nous l'autorité royale. Et c'est pas seulement la divinité de Jésus-Christ, mais c'est également son humanité. Et c'est en tant qu'homme qu'il est notre roi. Notre roi est un homme comme nous, bon, infiniment supérieur, bien sûr, en perfection, en sainteté, ça c'est vrai, mais c'est un homme comme nous, notre roi est l'un d'entre nous. Dieu est notre roi, sans doute, mais le Christ est notre roi en tant qu'homme. Car c'est seulement du Christ en tant qu'homme qu'on peut dire « il a reçu du Père la puissance, l'honneur et la royauté ». Mais c'est sûr. En tant que Dieu, il a de toute éternité cela. Mais c'est en tant qu'homme qu'il a reçu cela. La puissance, l'honneur et la royauté. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans cette belle encyclique? Mais vous la connaissez, j'espère. Ainsi, l'empire de notre Rédempteur embrasse la totalité des hommes. Et tous les hommes qui sont sujets du Christ, roi. Tous les hommes. Y compris les bouddhistes, y compris les francs-maçons, y compris les juifs, y compris tout ce que vous voudrez, pour prendre n'importe quel homme que ce soit, il est sujet du Christ roi. Eh oui. Son empire ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés, qui appartiennent juridiquement à l'Église, même s'ils sont égarés loin d'elle, etc. Il embrasse également, et sans exception, tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l'empire du Christ Jésus, c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain. Eh oui, l'universalité du genre humain, et même dans un autre endroit. Dans un autre endroit. Voilà, c'est ici. Dans un autre endroit. Il en résulte que les anges et les hommes ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme, car au seul titre de l'union hypostatique, le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. Et pas seulement sur les hommes, mais également sur les anges et sur tout l'ordre créé. Et cela, d'où cela vient-il? Eh bien, justement, au départ déjà de cette union hypostatique. Vous savez ce que c'est maintenant, l'union hypostatique, hein? Bon, voilà, hein? Très bien. La personne du Verbe qui assume une nature humaine, vous voyez, c'est ça, ce qu'on appelle l'union hypostatique, donc c'est l'union, je le répète pour la... Mais c'est des choses qu'on a toujours besoin de se remettre un petit peu en tête, hein, c'est l'union de la nature humaine à la nature divine dans la personne du Verbe de Dieu. Hypostase, ça veut dire personne. Hein, c'est un mot grec, hypostase, qui veut dire simplement personne. Hein. Une union hypostatique, c'est l'union donc personnelle, dans la personne du Fils de Dieu, l'union des deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et bien par le fait, vous voyez, que le Verbe de Dieu est assumé ainsi une nature humaine, et bien cette nature humaine, et bien, se trouve tout simplement participée à l'autorité du Verbe de Dieu, donc à cette royauté sur toute créature, oui. Par le seul fait de l'union hypostatique. Oui, bon, enfin, tout cela, je pense que vous le connaissez un petit peu. Et quels sont les titres? Bon, continuons un petit peu, et c'est vrai que c'est très beau tout cela, oui. Mais quoi de plus délectable, de plus suave que cette seconde pensée? Le Christ règne sur nous non seulement par droit de nature, mais encore par droit acquis, puisqu'il nous a rachetés. Et non seulement il est notre roi, par cette union hypostatique, par le fait de l'incarnation, mais il est encore notre roi par le rachat, par la rédemption. Et non seulement il a voulu être un des nôtres, mais en plus il a voulu verser son sang pour nous, il a payé véritablement le prix qu'il fallait payer. Donc double titre à cette royauté du Christ. Puissent tous les hommes qui l'oublient se souvenir du prix que nous avons coûté à notre Sauveur. Saint Pierre qui dit cela. Vous n'avez pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent corruptible, mais par le sang précieux du Christ, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Le Christ nous a achetés à grand prix, nous ne nous appartenons plus, nos corps eux-mêmes sont les membres du Christ. Oui, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, ça. Nous ne nous appartenons plus, hein. Oui, parce que nous avons été rachetés par le sang du Christ. Et rien de ce qui nous constitue, que ce soit notre âme, notre esprit, notre intelligence, notre volonté, même notre corps, tout cela ne nous appartient plus. Ça lui appartient. C'est sa propriété. Il l'a payé trop cher. Alors il faut lui laisser le gouvernement sur tout notre être, puisque ça lui appartient. Oui, ce don du Christ roi, c'est fou ce que ça a inclus comme conséquence, hein, si vraiment nous comprenions, hein, cette royauté que Jésus-Christ actuellement, dans son éternité, exerce sur nous et sur tout notre être, si vraiment nous le comprenions et si nous essayons justement de le vivre, d'être bien soumis à l'autorité du Christ, là, dans tout notre être, ça serait beau, hein, ça serait bien. Eh oui, roi universel, Bon, il y aurait bien des choses à dire encore là-dessus, mais enfin, bon. Et donc les droits, oui, bon, il y a ces deux droits essentiels. C'est le droit d'abord de sa nativité, donc de l'union hypostatique. Et puis ce droit du Rédempteur, hein, bien sûr, c'est celui peut-être qui nous touche le plus, nous, quand nous voyons un petit peu ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous conquérir, pour nous délivrer justement de la damnation. Bon, peut-être cela nous touche-t-il plus, bon, que ce premier droit plus fondamental, celui de l'union hypostatique. Oui. Et ce droit, oui, cette royauté du Christ, nous emportons en nous la marque, hein. Il ne faut pas l'oublier, ça, hein, c'est par notre baptême. Au jour de notre baptême, nous avons reçu le caractère du Christ, par lequel nous sommes marqués comme étant des sujets du Christ. Hein. C'est par ce caractère baptismal, eh bien, je dirais que le Christ assure sur nous sa royauté, son autorité. Hein. Et donc, par le fait d'être baptisé, eh bien, nous ne nous appartenons plus. Tous les hommes appartiennent à Jésus-Christ, bien sûr, mais à plus forte raison, le baptiser par ce caractère baptismal, renouvelé bien sûr par le caractère de la confirmation ou le caractère même sacerdotal. Hein, ça c'est clair. Hein. Tout cela marque justement une emprise plus complète, plus totale du Christ roi sur nous, sur notre âme et par notre âme et bien sûr tout notre être, sur notre corps et sur toute notre existence. Hein. Et c'est cela être chrétien. Hein. Être chrétien, c'est justement, je dirais, se livrer totalement à cette royauté du Christ. Hein. C'est pas seulement faire une petite prière de temps en temps, c'est pas seulement, je sais pas quoi, moi, ne pas pécher, etc. Bon, c'est déjà bien, ça c'est vraiment le strict minimum. Hein. Être chrétien, mais justement, c'est se soumettre totalement, oui, à cette royauté de grâce. C'est une royauté de grâce, une royauté d'amour, une royauté de justice, de perfection, de sainteté du Christ. Et qui s'exerce sur nous par ce caractère baptismal. Ouais. C'est beau, ça. Hein. Ah, être chrétien, c'est beau. Être vraiment chrétien, être ainsi, comme ça, totalement livré, totalement abandonné, voyez, au gouvernement du Christ, hein, c'est magnifique. Hein. Et peut-être pour cela, justement, est-il nécessaire de croire. Moi, ouais, nous le croyons, mais j'espère, nous le croyons, mais d'une fois un peu spéculative. C'est, on est toujours trop spéculatif. Oui. Même si on croit ne pas être spéculatif, on est toujours trop spéculatif. On croit qu'on a les pieds bien sur terre. Oh, nous, vous savez, nous, on est des paysans. Il ne faut pas nous faire des théories, etc. Mais on en fait tous un peu de théorie malgré nous, vous savez. On croit que le Christ est roi. On le croit. Bon, très bien, mais ça, c'est un dogme de foi qui est dans notre vitrine. Alors, on le dit de temps en temps. Très bien, on récite son credo. C'est bien, ça va bien. Mais c'est pas ça, croire. Croire, c'est vivre. Croire, c'est vivre. C'est vivre ce que l'on croit. Voilà. Et essayer, justement, de vivre véritablement cette royauté du Christ. Oui. Est-ce que vraiment je crois? Est-ce que vraiment chacun d'entre nous croyons qu'actuellement, en ce moment, Jésus-Christ, homme, avec son corps, son âme, son intelligence, là, il me gouverne. En ce moment, il exerce sur moi un gouvernement réel, effectif. Il me parle, il m'ordonne, il me dit ceci, il fait ceci. Est-ce que je le crois? Bon, j'espère. J'espère, mais c'est pas facile à croire, c'est vrai. Hein, ça, je vous l'accorde très, très, très volontiers. C'est pas facile à croire, mais c'est ça qu'il faut croire. C'est magnifique, je dirais, la religion vécue comme ça, c'est très beau. La religion, ne l'oubliez jamais, c'est une relation de personne à personne. C'est une relation d'amour et de confiance entre moi, pauvre petit atome, là, etc., un pauvre petit être lamentable, entre moi et puis ce Christ qui m'aime, qui est mon roi, qui a versé son sang pour moi. Voilà. Et une relation constante. Entre deux êtres qui s'aiment, enfin quand même, quoi, vous savez ce que c'est quand on s'aime, quoi, ben voilà, on se regarde en blanc des yeux, on se dit des tas de choses, intelligentes ou pas intelligentes, ça dépend, enfin, etc. Mais en tout cas, on peut pas se quitter. Quand on s'aime, on peut pas se quitter. On a qu'une crainte, justement, ben, c'est de froisser, de faire de la peine à celui qu'on aime, etc. Et voilà. C'est pas plus difficile que ça. Bon, le seul inconvénient, bien sûr, c'est que le Christ roi, il est pas loin pourtant, hein, mais on le voit pas, en tout cas, ça c'est sûr, il est pas loin, hein. Enfin, Et il faut y croire. Hein. Et c'est cela qu'il fait actuellement, depuis son ascension, et dans son éternité, c'est cela qu'il fait. Et donc cette royauté du Christ, et donc qui s'exerce actuellement. Ça, c'est cette première peut-être prérogative du Christ, à laquelle il nous faut croire de façon donc très très effective et très très réelle. Et puis l'autre prérogative, eh bien, c'est celle du juge. Ah, celle-là, c'est peut-être un peu moins agréable pour nous, celle du juge, quoique. Tout dépend précisément de la façon dont nous sommes, dont nous vivons. Cette royauté du Christ, nous n'avons rien à craindre du jugement du Christ, si nous sommes de ses sujets fidèles. Tout va bien au contraire même. On n'attend qu'une chose, c'est qu'il nous rende justice. Ouais. Mais, voilà. Hein. Donc, autre prérogative du Christ, ouais, c'est donc le jugement universel. Hein. Ce juge, le Christ, est juge en tant qu'homme. Et là-dessus aussi, saint Thomas d'Aquin a des belles choses. Ouais. Des belles choses dans son commentaire du Credo. De là, donc, il viendra juger les vivants et les morts. Et oui, c'est clair, hein, savoir que le jugement fait partie de l'office du roi. C'est celui qui a l'autorité, c'est le roi qui est habilité à juger. Hein. Et donc le Christ étant roi, il est clair que c'est à lui qu'appartient le jugement. Et c'est pourquoi, donc, nous confessons que Jésus viendra juger les vivants et les morts. C'est ce qu'ont dit les anges aux apôtres. Ce Jésus qui vient d'être enlevé au ciel, du milieu de vous, on reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. Oui, il est monté au ciel, nous l'avons vu s'élever, et bien un jour, nous le verrons revenir dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, dans toute sa gloire, et là, bien, il viendra nous demander, bien voilà, qu'as-tu fait de mon sang? Qu'as-tu fait de mon sang? Ce sang que j'ai versé pour toi, ce sang que je t'ai donné tout au long de ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Et donc, saint Thomas d'Aquin ensuite continue en disant, il y a lieu d'observer trois choses. Trois choses à propos de ce jugement. D'abord sa forme, ensuite la crainte qu'il doit nous inspirer, et ensuite la préparation qu'il requiert de nous. Mais d'abord la forme du jugement. La forme du jugement. Et comment, je dirais, ce jugement, comment se passera-t-il? Alors, quant à cette forme du jugement, ben, qu'est-ce qu'il faut considérer? Bien, les êtres en présence. D'abord, la personne du juge, les personnes jugées. Et puis ensuite, un peu sur quoi portera ce jugement. Et quel est le juge? Eh bien, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est lui qui juge. C'est à lui que tout jugement a été remis par son Père. C'est lui, dit saint Pierre, qui a été constitué par Dieu, juge des vivants et des morts. Or, le Christ Jésus est juge, non seulement en tant qu'il est Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il est juge en tant qu'homme. C'est dans son humanité qu'il est notre juge, qu'il nous juge et qu'il nous jugera. Et les raisons que donne saint Thomas d'Aquin, oui, sur ce fait que le jugement soit exercé par le Christ homme, sont très, 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 très justes, hein, très belles. Oui, c'est dans son humanité qu'il nous jugera. Premier motif, il est nécessaire que ceux qui sont jugés voient leur juge. Mais si nous sommes appelés à comparaître devant le tribunal de Dieu, ben, il est normal que nous voyions notre juge. Or Dieu, personne ne le voit. Et donc c'est le Christ homme qui nous jugera. C'est lui qui sera notre juge, ainsi nous pourrons le voir. Voir notre juge. Or, la divinité possède un tel attrait qu'on ne peut pas la voir sans éprouver de la joie. Et aucun damné ne pourra donc la voir parce qu'alors il se réjouirait. Voyez, si donc nous admettons qu'il est normal que le jugé voit son juge. Suivez bien le raisonnement, c'est pas très difficile, mais enfin, voyez, il est normal que moi qui suis jugé, que je vois mon juge. Or, si je vois mon juge qui est Dieu, aussitôt, c'est la béatitude. Normal, quand on voit Dieu, ça y est, c'est le bonheur. Hein. Or, les damnés, eux, ne pourront jamais voir Dieu. Il y a une contradiction entre cette béatitude de voir Dieu et le fait de la damnation. Ouais. Et donc, les damnés ne pourraient pas être jugés. Ouais. Ne pourraient pas comparaître et voir leur juge. Ouais. Ouais. Une sorte de contradiction, c'est pas possible. Ouais. Et donc, afin que notre juge soit vu de tous les hommes, il faut qu'il apparaisse sous la forme d'un homme. Voilà. Alors là, les damnés pourront voir le Christ homme. Oui. Parce que le Christ homme, si vous voulez, voile la divinité. Et donc, les damnés pourront regarder Jésus-Christ sans avoir la joie de la béatitude, sans voir la divinité. Et donc, ils pourront effectivement être jugés par le Christ en tant qu'homme. C'est pourquoi, donc, notre Seigneur dit aux Juifs, dans Saint Jean, « Le Père a donné au Fils le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils de l'homme. » Et c'est parce qu'il est homme que le Père lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Donc, vous voyez, première raison, il faut que ceux qui sont jugés voient leur juge. En second lieu, le Fils de Dieu est juge universel en tant qu'homme parce qu'il a mérité précisément en tant que tel cet office de juge. Vous voyez. Pourquoi ? Bien, parce que c'est en tant qu'homme, c'est dans son humanité qu'il a été injustement jugé. Il a été lui-même jugé et de façon injuste dans son humanité. Et donc c'est une sorte de rétablissement, vous voyez, de la justice pour lui. Lui qui a été jugé dans son humanité, eh bien c'est dans son humanité qu'il sera notre juge. Et en troisième lieu, le jugement fut donné au Fils en tant qu'il est homme, afin que les hommes, étant jugés par un homme, cesse de désespérer. C'est un motif de confiance pour nous. À savoir que nous serons jugés par quelqu'un de notre race, quelqu'un de notre sang, quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être homme, qui sait ce que c'est de souffrir, etc. Oui. Et oui, si en effet Dieu seul était leur juge dans leur effroi, ils se livreraient au désespoir. Et oui, c'est une sorte de réconfort pour nous de savoir... Bon, quand on connaît la vie de notre Seigneur, comment il a vécu, ce qu'il a souffert, eh bien de savoir qu'il a compati à nos souffrances, il a compati à nos misères. Alors c'est un motif de confiance pour nous, de savoir que c'est lui qui nous jugera. Il sait ce que c'est que de souffrir. Hein. Et donc d'abord, la personne du juge, notre Seigneur, c'est donc en tant qu'homme qu'il nous jugera, et cela est tout à fait adapté justement à cette nécessité du jugement. Quant à ceux qui sont jugés, bon là c'est un peu plus compliqué, nous passerons un petit peu rapidement là-dessus. Oui. Il y a d'après Saint Grégoire une quadruple différence. Ah oui, là ça se complique un peu là. Il y en a qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Bon, jusque-là ça va à peu près, on comprend. Il y aura les bons qui seront jugés, mais également les mauvais. Et parmi les mauvais, attention, ça se complique. Il y en a qui seront condamnés mais sans être jugés. Il y en a qui ne seront pas jugés, oui, parce qu'ils sont déjà condamnés. Par eux-mêmes. Eux-mêmes se sont déjà condamnés. Oui. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé, celui-là. Parce qu'il n'a pas voulu croire au nom du Fils unique de Dieu. Il est déjà jugé. Mais c'est lui-même qui s'est jugé. Il s'est refusé. Bon, terminé. Il ne veut pas croire en Jésus-Christ. Donc, celui-là est déjà condamné, mais il n'est pas jugé. Il ne sera pas jugé. Ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui sont mauvais qui, eux, seront jugés. Ils avaient la foi, mais ils ont mal agi. Bon, alors ceux-là, d'accord, seront jugés. Ouais. C'est les fidèles morts en état de péché mortel, etc. Ouais. Alors ceux-là, bon, bien sûr, seront jugés et ensuite seront condamnés. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Ça, c'est pour les mauvais. Ouais. Certains mauvais qui ne seront pas jugés, qui sont déjà condamnés, et d'autres mauvais, bon, qui seront jugés et condamnés. Bon. Quant aux bons... Ah. Ça, c'est beau aussi. Il y a des bons qui seront sauvés sans être jugés. Ah, c'est bien aussi. Eh oui, bon, attention. Hein. Je ne vous garantis pas que c'est le cas le plus fréquent. Hein. Des bons qui seront sauvés sans être jugés. Ce sont ceux qui auront possédé l'esprit de pauvreté par amour pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Oui. Bien loin de passer par le jugement, ils jugeront les autres. Et même ils jugeront les autres là. Mais attention, un jugement de miséricorde, un jugement de bonté, bien sûr, c'est pas pour les condamner les autres. Hein. Et oui, c'est notre Seigneur lui-même qui le dit, hein. Vous qui m'avez suivi, lors de la régénération, quand le Fils de l'homme aura pris place sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Eh oui. Ceux qui l'auront suivi, vous voyez, vraiment sur le chemin de la croix, etc., qui auront été ses parfaits disciples, eh bien, ils jugeront avec lui. Au lieu d'être jugés, c'est eux qui jugeront. Et... Je ne sais pas s'ils seront nombreux, ceux-là, qui seront jugés les autres, mais il y en aura quelques-uns, en tout cas, certainement. Et oui, et ces paroles visent non seulement les disciples, mais aussi tous ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Et oui, c'est beau ça. Et ensuite, il y a les autres bons, alors, bon. Ceux qui mourront dans la justice, qui seront sauvés, mais après avoir été jugés. Bon, ceux-là seront jugés, on jugera leurs œuvres, etc. Et leurs œuvres étant bonnes, à ce moment-là, ils seront sauvés. Et sur quoi portera le jugement? Donc, après avoir regardé la personne du juge, les personnes qui sont jugées, saint Thomas considère un peu, bien, sur quoi portera ce jugement? Bien, toutes les actions bonnes et mauvaises, tout, tout, tout. Même sur nos paroles inutiles. Aïe, aïe, aïe. Inutile. Attention, mais les paroles inutiles, les paroles oiseuses, attention, hein, c'est... Une parole de détente n'est pas une parole inutile, hein, attention. Bon, ben, attention, hein, faut... La mesure n'est pas facile à trouver, je comprends tout à fait, mais la détente, la récréation, ça, c'est une chose utile, hein, attention, hein. C'est une nécessité, quand même, ouf. Bon, voilà, on n'est pas des anges, hein. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, à parler du bon Dieu, des grandes contemplations, etc. Non, il faut quand même se récréer, c'est tout à fait légitime, hein. Bon, il y a des paroles utiles, mais il y a des paroles inutiles, des paroles oiseuses. Celles que l'on prononce pour se faire plaisir, comme ça, quitte à écorcher un peu le voisin, etc., tous des trucs comme ça, oui. Bon, ça, attention, celles-là, effectivement, nous serons jugés sur cela, parce qu'elles ne sont pas utiles, elles sont même peut-être nuisibles, oui, bon, etc. Et oui, nous serons jugés donc sur tout, non seulement nos actions, les paroles, mais également les pensées. Et oui, même nos pensées, toutes nos pensées, tout ce qui nous tourne dans la tête, tout cela sera jugé. Et oui. La sagesse affirme en effet que Dieu fera une enquête sur les pensées de l'impie. In cogitationibus impii interrogatio erit. Il y aura une interrogation, un jugement sur les cogitations de l'impie. Tout ce qui nous tourne dans la tête, là. Tout ce qui nous tourne dans la tête, attention, de façon consciente et volontaire, hein, bien sûr, malheureusement les pensées qui viennent comme ça toutes seules, ça c'est différent, mais les pensées auxquelles on s'arrête, dans lesquelles on se complète, hein, qu'on retourne, tout ça, hein, aïe, aïe, attention, hein. Et c'est terrible ça, hein. Il y a de quoi trembler certains jours, hein, c'est sûr, hein. Et précisément, et voilà, de la crainte que doit nous inspirer le jugement de Jésus-Christ. La crainte. Il faut craindre, hein, ce jugement. Hein. Si nous considérons la personne de notre juge, qui il est, si nous considérons qui nous sommes et un petit peu ben, tout ce qu'il va considérer, c'est sûr que tout cela doit nous faire un petit peu trembler. Ça ne doit pas nous décourager, ne doit pas nous désespérer, c'est bien évident, parce que quand même, il nous aime, il y a le Sacré-Cœur, il y a la grâce, il y a les sacrements, il y a nos efforts, etc. Mais quand même, ce jugement doit nous faire craindre un petit peu, nous faire trembler un peu. Pourquoi ? Eh bien d'abord, précisément, le premier motif de craindre ce jugement, c'est la sagesse du juge. Vous voyez, cette sagesse du Christ. Oui. Cette sagesse. En effet, Jésus-Christ, hein, Jésus-Christ dans son humanité, toujours pareil, hein, quand on parle de Jésus, c'est pas simplement Dieu. Hein. Bon, oui, c'est Dieu, mais c'est également le Christ dans son humanité. Jésus, en effet, n'ignore absolument rien de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Rien. Pas la peine de vous cacher un KGB ou je ne sais pas quoi, etc. Rien, il n'ignore rien. De toute façon, même ce qui se passe dans la tête, il le sait. Alors, si vous les cachez, pas la peine. Même si vous fermez les yeux, il le voit quand même. Ça n'y fait rien du tout. Il connaît tout. Il connaît toutes nos paroles. Il n'ignore aucune de nos pensées. Il sera donc un témoin infaillible. Ouais, etc. Ouais, donc d'abord la sagesse du Christ, hein, qui pénètre vraiment toutes nos pensées, le fond de nos cœurs. Ouais. Ensuite, deuxième motif de crainte, eh bien, c'est la puissance du juge, cette puissance qui appartient au Christ, puisqu'il est par lui-même tout puissant. Troisième motif de crainte, c'est l'inflexible justice du juge. L'inflexible justice du juge. Il ne faudra pas lui raconter d'histoire. Il ne faudra pas chercher à la pitoyer. Il ne faudra pas lui faire de... je sais comment on peut faire aujourd'hui. On verse une petite larme. Oh, mon pauvre petit, etc. Il connaît tout. Il connaît toute la vérité. Ce ne sera pas la peine d'essayer de raconter des histoires, etc. Ouais. Et là, Saint Thomas, un passage très, très important pour nous, je crois. Oui. Actuellement, en effet, c'est le temps de la miséricorde. Actuellement, quel bonheur, quel bonheur. Nous vivons dans l'ère de la miséricorde. Mais alors, à ce moment-là, ce sera uniquement le temps de la justice. Et oui. Et c'est pourquoi maintenant, c'est notre heure à nous, mais alors, ce sera exclusivement l'heure de Dieu. Et actuellement, oui, c'est encore notre heure à nous. C'est l'heure de l'homme, si on peut dire, de, oui, avec ce qu'il y a de faiblesse. C'est l'heure de la miséricorde. Mais quand tout cela sera fini, quand le souverain juge viendra, eh bien, ce sera uniquement l'heure de Dieu. Ce sera l'heure du juge. Oui, il dirait à la limite, on ne peut pas dire que ce sera trop tard pour la miséricorde, mais ce ne sera plus véritablement l'heure de la miséricorde. Oui. Et ça, c'est important hein, pour nous. Nous vivons vraiment dans l'ère de la miséricorde. C'est pas l'heure de la justice encore. Hein. L'heure de la justice, elle viendra. Et cette justice, elle a été remise totalement au Fils de Dieu. Elle ne nous a jamais été remise à nous. Et donc pour nous, et dans nos rapports mutuels, eh bien c'est encore, et ce doit être toujours, l'heure de la miséricorde. Vivre la miséricorde entre nous. Si nous voulons... Et je dirais, être sincère hein, lorsque nous disons le Notre Père, hein, pardonnez nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, c'est ça l'heure de la miséricorde. On implore le pardon de Dieu, on implore sa miséricorde, mais je dirais comme signe, comme mesure un peu de cette miséricorde que nous implorons, eh bien c'est celle que nous avons pour les autres. C'est l'heure de la miséricorde et il faut nous attacher à vivre cette heure de la miséricorde. Ce n'est pas l'heure de la justice encore. Cette justice, eh bien, il l'exercera en son temps, mais ce n'est pas encore le moment. Oui. Et actuellement, que fait Jésus-Christ? Il est notre roi, il est notre juge, mais actuellement, il n'exerce pas, voyez, cette autorité judiciaire. Il ne l'exercera qu'à la fin des temps. Et actuellement, que fait-il? Il se fait notre avocat. Et ce que dit l'Épître aux Hébreux, il est notre avocat et il intercède pour nous auprès de son Père. Et ensuite, eh bien, quand viendra l'heure de la justice, alors là, eh bien, ce sera fini. Nous n'aurons plus d'avocat pratiquement. Notre avocat aura fait tout ce qu'il aura pu pour nous sauver. Il n'y aura plus qu'une chose à faire, et bien c'est rendre justice et rendre à chacun ce qui lui est dû. Et oui, autant que j'aurai fixé, dit le Seigneur, je ferai parfaite justice. Et ce que dit le livre des Proverbes, hein, au jour de la vengeance, son zèle et sa fureur seront sans pitié. Il n'écoutera les prières de personne. Il ne recevra pas les dons nombreux offerts pour le rachat des coupables. Ce sera fini. Maintenant, oui. On peut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant. Oui, actuellement, oui, il faut prier, il faut supplier, il faut intercéder. Mais quand tout sera fini, ce ne sera plus le temps. Ce ne sera plus l'heure. Ce sera trop tard. Eh oui. Ce jour-là, il n'écoutera plus les prières de personne. C'est terrible, ça, hein? Actuellement, il écoute, oui, bien sûr, oui, parce que c'est l'heure de la miséricorde. Oui, bon, il y a peut-être raison de craindre un petit peu ce jugement. Hein. Oui. Et enfin, le quatrième motif de redouter le jugement, c'est la colère du juge. Colère du juge. Alors attention, bien sûr, quand nous parlons colère du juge, ce n'est pas la colère, ce n'est pas le mouvement de colère tel que nous le connaissons, nous, hommes. Mais elle a en vue, quand l'Écriture parle de colère, elle a en vue seulement ce qui paraît être un effet de la colère, à savoir la peine éternelle infligée aux pécheurs. Vous voyez, c'est les effets de la colère. Vous voyez, les effets de ce qui chez nous serait de la colère, mais qui chez Dieu n'est pas de la colère. Hein. La peine éternelle infligée aux pécheurs, eh bien, ce sont les effets du jugement de Dieu, et donc... Comme c'est une peine, une punition, une sentence terrible, oui. Bon, on attribue cela à la colère de Dieu, alors qu'en Dieu, il n'y a pas de colère, bien sûr. Dieu ne peut pas se mettre en colère, heureusement. Sinon, le pauvre, il serait souvent en colère, hein, vous rendez compte, hein. Et oui. Et ce jugement et tout cela, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'exercera. Il est notre juge, il est notre roi, notre juge dans son éternité. Actuellement, eh bien qu'il pourrait, il pourrait très bien nous juger maintenant. Oui. Et d'ailleurs, ce jugement, il l'exerce déjà sur chacun d'entre nous. Il l'exercera, du moins, sur chacun d'entre nous lorsque nous quitterons la terre au moment de notre mort. Oui. mais il l'exercera vraiment avec perfection, avec totalité, eh bien, au dernier temps, au dernier jour, au moment de la résurrection finale, où là, véritablement, hein, il exercera ce jugement, ce qu'on appelle le jugement universel. Vous voyez, bon, cette distinction entre le jugement particulier et le jugement universel, hein, qui est une réalité, ce jugement. Parfois, on se demande, mais enfin, bon, jugement particulier, c'est bien. Mais jugement universel, est-ce que vraiment il faut encore un deuxième jugement? Bon, une fois qu'on est jugé, on est jugé. Bon, pourquoi ce jugement universel, hein? Et saint Thomas d'Aquin encore, lui-même, hein, toujours a des choses bien, bien intéressantes et qui sont très, très, très justes. On comprend un peu pourquoi il faut, en plus de ce jugement particulier, un jugement universel, hein. Et parce que l'homme est un être social. Ouais, nous ne vivons pas indépendamment des autres. Nous avons vécu en société. Et donc, au jour de notre jugement particulier, bon, nous sommes jugés face à face à Jésus-Christ. Bon, très bien. Mais ça n'est pas tout, ça, je dirais ça. Parce que nous sommes aussi membres d'une société. Ouais. Vous voyez ce que dit saint Thomas ici? Chaque homme est une personne individuelle et en même temps partie du genre humain tout entier. Il faut donc qu'il soit l'objet d'un double jugement, un jugement personnel qui se fera après la mort. Chacun sera récompensé, puni d'après ce qu'il a fait, mais non pas d'une manière totale, car ce jugement visera non pas son corps, mais son âme seulement. Vous voyez, dans notre jugement particulier, il n'y a que notre âme qui comparaît devant Dieu, devant Jésus-Christ. Et donc seule notre âme sera jugée. Et donc ce n'est pas tout notre être qui sera jugé. Et l'autre jugement, le deuxième jugement, doit porter sur l'homme en tant qu'il est parti du genre humain tout entier. Et donc, cela se fera lors du jugement universel du genre humain tout entier. Lorsqu'il y aura résurrection, donc générale, et les corps, notre corps, à ce moment-là, sera associé à notre âme pour être jugé à son tour. Oui, premier jugement particulier, il n'y a que l'âme qui soit jugée, et au jugement général, le corps est jugé en même temps, donc nous sommes jugés dans notre être tout entier. Et ici, une deuxième considération qui est très, très juste, hein, si vous considérez un peu les choses, oui, c'est dans la somme théologique, c'est là, une autre considération, eh bien, c'est qu'à la mort, on ne meurt pas tout entier. C'est vrai, nos œuvres nous suivent. Et il se passe encore mille choses, et me dire un homme qui est mort exerce encore une influence considérable sur les autres hommes. Quel que soit le rang, je dirais, qu'on a eu dans la société, pensez à un écrivain, pensez à un homme politique, pensez un petit peu à, même, je dirais, toute l'influence, l'action que l'on peut avoir sur nos prochains, dans notre famille, etc. Et après notre mort, on se survit d'une certaine façon, oui. Donc il y a une certaine action qui continue à se faire, oui, sur les autres hommes, une influence qui continue à s'exercer bien au-delà de notre mort, oui. Oui, à la mort, donc, on ne meurt pas tout entier. L'homme se survit à lui-même dans sa réputation. Ah là là, tiens. Des hommes que nous jugeons grands. Oui, que les hommes jugent grands, on leur lève des statues, des avenues, machin, truc, etc. Oui, la réputation survit à l'homme. Alors que si nous savions, bon, nous ne le savons pas grâce à Dieu, mais si nous savions comment Dieu, lui, juge cet homme, peut-être qu'on abattrait des statues et qu'on débaptiserait des avenues, je ne sais pas. Oui. Donc, l'homme se survit d'une certaine façon. Donc, la réputation dans ses enfants, dans ses œuvres, dans sa sépulture, dans ses objets d'affection, etc. Or, tout cela ne correspond pas toujours au mérite de chacun. La mémoire des hommes est trompeuse. Les enfants ne suivent pas toujours les exemples de leurs pères. Les œuvres prolongent souvent l'action néfaste ou heureuse de ceux qui les ont produites. Les hommes ne reçoivent pas toujours la sépulture qui leur conviendrait, etc., etc., etc. Et donc, il s'ensuit que, au-delà de ce jugement particulier, eh bien, il faudra encore un deuxième jugement, justement, pour tout cela. Tout ce qui aura suivi notre mort, hein, tout cela doit être soumis à l'examen du jugement divin. Voilà pourquoi il y aura au dernier jour un jugement final qui appréciera d'une manière parfaite et manifeste absolument tout ce qui intéresse chaque homme. Vous voyez, vraiment chacun recevra ce qui lui est dû, non seulement on dirait aux yeux de Dieu, mais aux yeux de tous les hommes. Vous voyez, justice véritablement sera rendue à tous les bons et également aux mauvais. Des hommes qui nous apparaissent bons aujourd'hui eh bien, nous serons révélés dans leur vérité, et vice-versa. Des hommes que peut-être nous condamnons ici-bas, et nous, bon, celui-là, pour, certainement il est damné, ou je ne sais quoi, bon, tout ce qu'on peut imaginer, mais peut-être, au contraire, bien, voilà, hein, Dieu nous manifestera bien la bonté de sa vie, la bonté de son action et de ses œuvres, etc., ouais. Et donc, nécessité de ce jugement universel, non seul, pas seulement donc le jugement particulier qui rend chacun ce qui lui est dû, mais ce deuxième jugement dans lequel chacun sera rétabli dans sa vérité aux yeux de tous les hommes. Hein, ouais. Et tout cela sera, encore une fois, bien exercé par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Jésus-Christ dans son éternité, Jésus-Christ dans son humanité. Et je crois donc qu'il est important de nous habituer à contempler notre Seigneur dans sa gloire aujourd'hui. Jésus-Christ retourné à son Père, c'est quelque chose d'immense. Et d'essayer même peut-être de mesurer, oui, bon, c'est peut-être un peu difficile tout ça, je veux bien, de mesurer toute la différence, c'est fondamental, c'est très, une différence très très profonde qu'il y a entre le Verbe en Dieu avant son incarnation et le Verbe en Dieu après l'ascension et la Pentecôte. Ouais. C'est tout un monde qui a été refait, qui a été recréé. Ouais. Ouais. Jésus-Christ, disons, avant son incarnation, bon, c'était le Verbe de Dieu dans son éternité. Bon, très bien, la gloire, le bonheur, la béatitude, c'est parfait. Ouais. Et puis maintenant, voici que le Verbe de Dieu, donc le Christ, est retourné dans sa gloire. Ouais. Mais entre les deux, entre ces deux moments, vous voyez, où le Verbe de Dieu vit dans la gloire de son Père, quel changement, quelle transformation, vous voyez. Il y a tout un monde entre les deux, un monde qui n'existait pas avant. C'est le monde de la rédemption, c'est le monde de la grâce, le monde de l'Église, c'est le monde de Dieu vivant dans les âmes. Ce qu'il ne faisait pas avant, hein, ce qu'il ne faisait pas avant. C'est le monde des âmes délivrées, des âmes rachetées, des âmes gouvernées par le Christ, des âmes gouvernées par son âme humaine. Hein. Il y a une phrase de saint Thomas d'Aquin qui, je crois, résume un petit peu tout ce qu'il nous faut croire maintenant sur le Christ actuellement, si je la trouve, voilà. Et c'est curieux, vous voyez, comme saint Thomas d'Aquin, donc dans son traité du Christ, qui est long, sur lequel il s'attarde longtemps. Pratiquement la dernière phrase, hein, les dernières paroles, ouais, donc les paroles par lesquelles saint Thomas d'Aquin conclut ce traité du Verbe incarné, donc toute la partie de la somme théologique qu'il consacre à Jésus-Christ, mais voici un petit peu ce qu'il dit. « Si en effet, comme le dit saint Augustin, Dieu a coutume d'ordonner ainsi les choses, que les êtres inférieurs soient régis et gouvernés par les êtres supérieurs. » Effectivement, toute la hiérarchie des êtres, hein, les êtres inférieurs sont gouvernés par les êtres supérieurs et ainsi de suite. Hein, et bien, il faut donc conclure que toutes choses sont régies par l'âme du Christ qui est au-dessus de toute créature. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il y a de contenu dans cette petite phrase de saint Thomas d'Aquin. Toutes choses sont régies par l'âme du Christ qui est au-dessus de toute créature. L'âme du Christ, son âme humaine, toujours pareil, et c'est ça qui est important. Hein. Saint Thomas d'Aquin ne dit pas que toutes choses sont régies par Dieu. Bon, ça nous le savons déjà, bien sûr. Hein. Mais toutes choses sont régies par l'âme du Christ, donc par l'âme humaine du Christ. Cette âme du Christ qui a été torturée par la tristesse, l'angoisse, la souffrance, la déréliction, etc. Cette âme qui a tellement, tellement souffert, beaucoup plus que nous ne souffrirons jamais, eh bien c'est elle maintenant qui nous régit, qui nous gouverne tous. Et c'est elle qui nous jugera tous, l'âme humaine de Christ. Et c'est invraisemblable, hein, quand on essaie d'actualiser cette chose, ouais, toutes choses sont régies par l'âme du Christ. Eh oui, en ce moment, mes chers mesdames, mes chers messieurs, mes chères mesdemoiselles, vous êtes régis par l'âme du Christ. Je suis régi, je suis gouverné par l'âme du Christ. En ce moment, si je vous parle, c'est parce que l'âme du Christ me permet de vous parler, me donne la force de vous parler, me donne les idées, etc. Et si vous m'écoutez, eh bien, c'est parce que l'âme du Christ, en ce moment, vous donne la faculté de m'entendre et l'intelligence pour comprendre. etc., etc., etc. J'espère du moins qu'il fout la tonne. Et oui, sans cesse. Et même mais tout ça, ces enfants qui courent là-haut, c'est l'âme du Christ qui les fait courir. Enfin, ils couraient tout à l'heure, peut-être plus maintenant, ils sont descendus, voilà, etc. Mais la cascade qui coule, c'est l'âme du Christ qui l'a fait couler, je suis désolé. Et ça, vous ne pouvez rien dire contre ça, je ne suis pas désolé, je suis très heureux d'ailleurs, mais elle coule beaucoup mieux que si c'était moi qui la faisais couler, c'est certain. Ça. C'est extraordinaire, ça, de réaliser, je dirais, cette omniprésence de l'âme du Christ dans la création, dans tout l'ordre des choses créées, des choses humaines. Hein. Et le Christ en tant que Dieu, bien sûr, mais également en tant qu'homme, en tant que bon Verbe incarné et en tant que notre Rédempteur. Hein. Et le gouvernement de l'univers qui appartient à Dieu, bien sûr, puisqu'il est le Créateur de l'univers, eh bien, ce gouvernement de l'univers a été remis totalement à un homme, qui est Jésus-Christ. Et Dieu ne gouverne plus, si on peut dire actuellement, depuis la rédemption, Dieu ne veut plus gouverner l'univers tout seul. Il le gouverne par un homme, dans son humanité, par l'humanité de son Fils. C'est magnifique, ça. Eh oui, c'est un d'entre nous, c'est un homme comme nous qui gouverne l'univers, qui est notre roi, qui est notre juge. Et pour ça que nous pouvons dire vraiment que notre Dieu n'est pas très loin de nous, il est l'un de nous. Notre Dieu, il est parmi nous, il est comme nous. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Eh oui. C'est pourquoi, bien sûr, nous pouvons trembler, parce qu'il a une sagesse, une sainteté que nous n'avons pas. Mais d'un autre côté, quelle confiance doit être la nôtre, puisque c'est l'un des nôtres. C'est un homme qui a souffert comme nous souffrons, etc., qui nous jugera alors quand même. Il nous comprendra bien, c'est certain, ça. Oui, mais ce gouvernement de l'univers, donc, a été remis par Dieu à un homme qui est le Rédempteur. Dieu ne s'est pas dépossédé de ce gouvernement, mais il ne veut plus exercer ce gouvernement que par l'âme du Christ. Ouais. Et c'est ce que nous dit saint Paul, ce qu'essaie de nous faire comprendre saint Paul, ouais, c'est ces passages très beaux et peut-être un peu mystérieux, bon, celui que nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens, ou bien cet autre passage de l'Épître aux Philippiens, cet épître que nous lisons au dimanche des Rameaux. Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, hein, et Jésus c'est l'homme, c'est le Dieu fait homme Jésus, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Ouais. Le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ouais. Ou bien ce que dit encore saint Paul, ouais. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, ça c'est très beau, ça, une chose dont il faut bien nous persuader, oui. Omnia vestra sunt. C'est du latin, mais c'est facile à comprendre. Vos autem Christi, Christus autem Deo. C'est beau, ça, vous avez compris, bien sûr, je traduis quand même. Omnia vestra sunt, tout est à vous. Et dites donc, rendez compte, tout est à vous, toutes les choses sont vôtres. Omnia, toutes choses, vestra sunt, sont vôtres. Tout est à vous. Allez-y, la création, tout est à vous. Et c'est vrai. Dieu a tout remis entre les mains des hommes. Voilà, très bien. Omnia vestra sunt, tout est à vous. Vos autem Christi. Attention, mais vous êtes au Christ. Attention. Mais vous êtes au Christ. Vous voyez, vous ne vous appartenez pas, vous n'êtes pas propriétaire de vous-même. Alors tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Et le Christ, lui, est à Dieu. Et le Christ est à Dieu. Vous voyez, c'est très beau, c'est une petite phrase qui résume parfaitement, je dirais, l'ordre actuel des choses, qui a toujours été l'ordre des choses d'ailleurs. Tout est à vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Ou bien encore, voyez, un petit peu cet autre passage aussi dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, voyez, où le saint Paul nous montre bien, justement, c'est un très beau chapitre assez connu, voyez, sujet de la résurrection du Christ. Et si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, bon, si le Christ n'est pas ressuscité plutôt, notre foi est vaine, etc. Et voici ce qu'il dit ensuite. Si nous n'avions d'espérance en Jésus-Christ que pour cette vie, nous serions les plus misérables de tous les hommes. Mais Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu les prémices de ceux qui dorment. Et comme la mort est venue par un homme, la résurrection des morts doit venir aussi par un homme. Et la mort est venue par un homme, donc Adam, et la résurrection des morts doit venir aussi par un homme, Jésus-Christ. Toujours ce contraste hein, entre Adam et le nouvel Adam qui est Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, tous aussi revivront en Jésus-Christ. Et chacun en son rang, chacun en son rang. Jésus-Christ le premier, comme les prémices de tous. Oui, c'est pourquoi personne n'a ressuscité avant Jésus-Christ. Bon, hormis peut-être Lazare, mais c'est un cas particulier. Lazare qui est ressuscité, mais non pas pour la gloire, car Lazare, on a dû le dire, je crois, au passage, ne l'oubliez pas, Lazare, après sa résurrection, très certainement est remort une deuxième fois. On peut dire des choses comme ça, et c'était pas la résurrection finale, donc sans doute, très certainement, Lazare est mort une deuxième fois pour ensuite ressusciter pour la gloire, mais après le Christ. Et le premier à ressusciter, c'est le Christ. Et le premier à monter aux cieux, c'est le Christ aussi, c'est normal. Donc chacun en son rang, Jésus-Christ le premier comme les prémices de tous, puis ceux qui sont à lui, qui ont cru en son avènement. Et alors, ah, c'est beau tout ça. Et alors viendra la fin. Ah, ce sera bien quand même. Eh oui, ben si. Et alors viendra la fin, lorsque Jésus-Christ aura remis son royaume à Dieu son Père. Oui, lorsque Jésus-Christ aura remis son royaume à Dieu son Père. Il a le royaume, et un jour viendra où il remettra ce royaume entre les mains de son Père. Ce sera le dernier jour, ça. Donc viendra la fin. Lorsque Jésus-Christ aura remis son royaume à Dieu son Père, et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Oui, il viendra un jour où Jésus-Christ aura réduit à néant toute autre domination que la sienne. Celle du démon, celle des méchants, celle de la mort, tout ça, ça sera fini. Il n'y aura plus qu'une seule domination, la sienne. Aïe, aïe, aïe. Vivement ce jour-là, hein, quand même, dites. Hein. Car Jésus-Christ doit régner. Et oui, cette phrase assez célèbre. Hein, au portet illum regnare. Il doit régner, il faut qu'il règne. Car Jésus-Christ doit régner jusqu'à ce que son Père lui ait mis tous ses ennemis sous les pieds. Or, la mort sera le dernier ennemi qui sera détruit. Mais le dernier ennemi que détruira Jésus-Christ sera la mort. Résurrection finale. Voilà, fini, plus de mort, terminé. La mort sera le dernier ennemi qui sera détruit. Elle le sera car l'Écriture dit que Dieu lui a tout mis sous les pieds et lui a tout assujetti. Mais quand elle dit que tout lui est assujetti, que tout lui est soumis, donc, il est indubitable qu'il en faut accepter celui qui lui a assujetti toutes choses. Bon. Lors donc que toutes choses auront été assujetties au Fils, oui, donc lorsqu'il aura assuré sa domination sur toutes choses, en ayant détruit toute autre domination, alors le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, ce sera le plus beau jour de notre vie. Là, ouais. Donc, ouais, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Quand toutes choses auront été donc soumises au Fils, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui aura soumis toutes choses. Ouais, Dieu a soumis à son Fils, il a tout soumis, tout l'ordre créé. Et bien un jour, hein, bien, quand toutes les choses effectivement seront soumises à la loi du Christ, et bien ce jour-là, le Fils, lui, se soumettra à son Père et alors... afin que Dieu soit tout en tous. Ut sit Deus omnia in omnibus. Voilà, et voilà ce que prépare Jésus-Christ dans son éternité actuellement. Voilà à quoi tend son gouvernement, sa royauté. Sa royauté, la royauté du Christ, ne vise qu'une chose, justement, bien, c'est assurer cette domination de l'amour, domination de la grâce, domination de la sainteté, surtout l'ordre créé. Voilà. Et il viendra un jour, eh bien, où effectivement, cette domination sera réalisée. Eh bien, ce jour-là sera le plus beau jour de notre vie. Et quand ce sera fait, eh bien, Jésus-Christ se soumettra avec son royaume, justement, à son Père. On pourrait dire encore bien des choses, mais on n'en finirait plus, quand même.